Radio Kapi. Oh, Kapi. Jean-Désiré Kanyama pour le journal.
Au sommaire de ce journal, 14 organisations environnementales dénoncent un pillage systématique des ressources naturelles du parc national de Virunga. Un pillage exacerbé actuellement par la rébellion du M23, indiquent ces organisations dans une correspondance au chef de l'État. Et puis la synergie des syndicats des enseignants de la RDC demande au gouvernement de payer le nouveau barème salarial pour une rentrée scolaire 2023-2024 apaisée. La requête a été faite samedi dernier à Kinshasa lors de l'Assemblée générale d'évaluation de l'année scolaire 2022-2023. 5 jours nous séparent du démarrage officiel à Kinshasa des 9e Jeux de la Francophonie. Le président du comité national de ces Jeux parle avec assurance d'une grande fête. Isidore Kwandja est l'invité de ce journal. Voilà pour le titre. Avant d'aller plus loin, cette information qui nous parvient de Bounia, un militaire en colère tire à bout portant et tue 13 personnes, en majorité des enfants. Ce drame a eu lieu dans la nuit de samedi à hier dimanche à Tchomia, un centre de négoce situé à près de 60 km de Bounia. D'après la société civile locale, les soldats n'ont pas apprécié l'attitude de sa belle famille qui n'a pas été informée que son fils malade, acheminé dans une formation médicale à Tchomia, soit mort. Après avoir commis son forfait, l'auteur de ces meurtres s'est enfui. L'administrateur du territoire de Djougou, qui se rend sur place, appelle au calme et demande à toute personne qui détiendrait des informations pouvant permettre d'arrêter le fugitif de contacter les autorités. Au Nord Kivu, pendant ce temps, 14 organisations environnementales dénoncent un pillage systématique des ressources naturelles du parc national de Virunga. Dans une correspondance adressée la semaine dernière au président Félix Tshisekedi, ces acteurs de la société civile affirment que ce pillage est actuellement exacerbé par les rébellions du M23. Elles plaident pour qu'une solution urgente soit trouvée afin de sauver ce site classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Des détails avec Bernard Nyangi.
Pour ces organisations, entre autres l'IDPE, le CREDO, la CDH, alors que le parc était devenu la zone de prédilection d'une dizaine de groupes armés locaux et FDLR qui dilapidaient ses ressources pendant plus de 2 décennies, la situation devient de plus en plus inquiétante depuis l'implication de la rébellion du M23. Elle parle en particulier des secteurs centre et sud du parc national de Virunga, en territoire de Rutshuru-Nyiragongo, dont une grande partie n'est plus contrôlée par les éco-gardes et les gestionnaires du parc. Dans ces espaces, toutes les activités de conservation se sont arrêtées depuis plus d'une année. À la place, ce sont les activités illégales de braconnage, carbonisation, trafic de bois et charbon de bois, trafic de bébés primates et des trophées d'autres spécimens qui y sévissent. Ces organisations disent déplorer ce qu'elles qualifient d'inaction de la force régionale de l'EAC qui est pourtant déployée dans la zone. Elles plaident ainsi auprès du président de la République d'inclure dans ses actions diplomatiques la nécessité de protéger ce qui reste du parc national de Virunga, d'exiger une enquête mixte impliquant l'EAC, la MONUSCO et la CIRGL pour réprimer ces actes qu'elles appellent crimes environnementaux et crimes de guerre. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Le franc congolais va mal sur le marché de change face au dollar américain et les conséquences se font sentir sur la vie de la population, d'autant que sur le marché, les prix des denrées alimentaires notamment prennent l'ascenseur. À Bounia, à titre illustratif, les femmes qui vendent leurs articles le long des artères principales s'inquiètent de la dépréciation de la monnaie nationale. Elles affirment que cette situation pénalise sérieusement leurs activités. Certaines parmi elles disent avoir même perdu leur capital. Cela risque, ajoutent-elles, de compromettre la préparation de la rentrée scolaire de leurs enfants. Jean-Claude Lokidile les a rencontrés. Voici son reportage.
Gisèle Thorache, mère de famille, vend des fruits depuis de nombreuses années non loin du quartier général de la MONUSCO à Bounia. Elle déplore la dépréciation du franc congolais observée à Bounia depuis la semaine dernière. Difficile de travailler dans ces conditions, affirme-t-elle. À cause de cette situation, j'ai perdu mon capital. Tu clôtures la journée avec le taux de 2300 ou 2400. Le lendemain, tu te réveilles et tu trouves sur le marché le taux de 2500. Difficile même de nous ravitailler en marchandises. À Bounia, le taux de change proposé par les opérateurs du secteur varie actuellement entre 2500 et 2500. 2700 voire 2800 francs congolais pour 1 dollar. José Sikakale, une autre vendeuse de fruits dans les rues de Bounia, affirme que cette situation affecte surtout les gangs petits qui ont du mal à prospérer dans leurs activités. Regarde comment mon étalage est vide. Les enfants n'ont pas de quoi manger. Finalement, que faire? Qu'est-ce que le gouvernement pense de nous? Qu'est-ce que le chef de l'État pense de nous? La même indignation s'observe aussi chez des réparateurs de motos. Ils se voient obligés de majorer leurs tarifs afin de faire face à la flambée des prix de pièces de rechange sur le marché. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilet, Radio Okapi.
L'évolution inquiétante et persistante des fluctuations du taux d'échange par rapport aux devises étrangères et ses conséquences sur le pouvoir d'achat de la population est l'un des sujets débattus au Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. C'était le vendredi dernier ici à Kinshasa. Selon le porte-parole du gouvernement, après différents échanges, des mesures ont été prises, parmi lesquelles le paiement de tous les impôts, taxes, droits et redevances dus à l'État en francs congolais. D'autres mesures avec vous, Denis Lukeso.
La poursuite par la Banque centrale du Congo des interventions rigoureuses et régulières sur les marchés d'échange en mettant à la disposition de celui-ci les devises étrangères prélevées notamment sur les réserves d'échange. Il y a aussi la gestion rigoureuse des finances publiques par notamment la limitation des dépenses publiques à celles qui sont prioritaires et essentielles en privilégiant la procédure normale de la chaîne des dépenses publiques. Les paiements de dépenses publiques en espèces au guichet de la Banque centrale du Congo est interdit. Le secteur bancaire est appelé à encadrer les opérations d'échange effectuées par les bureaux d'échange qui doivent être compatibles avec leurs capacités réelles. Le gouvernement parle aussi du renforcement des mesures de rapatriement des devises et la concertation entre la BCC et les opérateurs du secteur minier pour les rachats éventuels d'une quantité de devises ainsi rapatriées. Aussi, le Trésor public va procéder à la retenue immédiate et à la source de la TVA pour les fournisseurs et prestataires de l'État lors des paiements de leurs factures. Le gouvernement décide aussi de l'encadrement de la taxation d'office des entreprises n'ayant pas fait leur déclaration fiscale par les ministres des Finances assistés par l'IGF.
Denis Lukeso sur Radio Okapi. En réaction aux mesures annoncées par le gouvernement en vue d'influer sur le marché de change, le député national Olive Moudékéré Zanamegabé estime qu'il faut plutôt investir dans l'agriculture. C'est là comme solution à long terme pour éviter la surchauffe observée souvent du marché de change. Cet acteur politique, également opérateur économique, s'appuie sur l'exemple du Kenya qui a exporté sur une période de 3 mois 7000 tonnes d'avocats pour une valeur de 64 millions de dollars américains. Le député national Olive Moudékéré Zanamegabé est au micro de Cynthia Bachizina Bizana.
L'hémorragie, il faut l'arrêter. Et comment l'arrêter? Il faut investir dans la production. Si nous avons des millions qui proviennent du secteur minier, il faut l'investir dans l'agriculture pour la transformation. Par exemple, voilà les pays comme le Kenya. Pendant 3 mois, ils viennent d'exporter pour uniquement que des avocats. 64 millions de dollars en Chine. Imaginez-vous le potentiel qu'il y a en RDC. Nous, nous avons les avocats, nous avons le prêt, nous avons le maracuja, nous avons le mangue, nous avons... Madame, vous parlez des ananas. C'est l'ananas d'Égypte qui est le meilleur au monde. J'ai été en Belgique, j'ai été en France, j'ai été à Dubaï. Le meilleur ananas provient d'Égypte. Mais tout ça, tout ce que nous avons, il faut les transformer en richesse. Il ne faut pas dire que le Congo est riche, mais on n'investit pas. Un pays comme la RDC doit avoir une banque d'investissement, une banque agricole, et avec des taux raisonnables. Si on donne les micro-entreprises, on donne les artisans, on donne les moyennes entreprises, on donne aux femmes un crédit à un taux de moins de 3%. Là, pendant 5 ans, 3 ans, 10 ans, vous allez voir comment ce pays va devenir la locomotive économique de la région.
Le député national Olive Moudékéré Zanamegabé insiste sur la nécessité de réhabiliter les routes de dessertes agricoles pour faciliter l'évacuation de la production agricole. Et puis le voyage par avion de Mbujimayi à Kinshasa devient un véritable parcours de combattants. De nombreux habitants de la ville de Mbujimayi et même des Kinois qui désirent s'y rendre éprouvent d'énormes difficultés pour attraper une place à bord d'un avion. Les deux compagnies d'aviation CAA et Congo Airways qui opèrent sur cette ligne sont débordées. D'après certains témoignages, cette situation s'explique par la présence de plusieurs vacanciers ainsi que des candidats à la députation nationale venus de Kinshasa et d'ailleurs pour postuler à Mbujimayi. Esther Dalafina signe ce reportage.
Devant la salle d'enregistrement de passagers, une liste est affichée avec le code des voyageurs débarqués par la compagnie CAA. Au niveau du guichet, aucun voyageur ne veut rester en Boujimaï, c'est la bousculade. Un voyageur désespéré s'exprime.
Les billets d'avion mentionnent le 22. Alors, j'arrive ici, on me dit que je ne peux pas partir, mais j'ai examiné le communiqué, il n'y en a pas. Je dois rater l'avion. Moi, je suis sous le manifeste 2 semaines avant.
D'autres voyageurs avec des billets en main voient leur voyage reporté pour des raisons non encore justifiées.
On était même dans la salle d'enregistrement, là où on devait nous checker. On est resté au comptoir là-bas, ça fait maintenant 2 heures. Mais après un long moment, on nous dit, vous ne voyagez pas aujourd'hui, vous allez voyager demain. Alors qu'on a acheté les billets pour aujourd'hui. Ça dérange trop.
D'après certains observateurs, cette situation s'explique par la présence de plusieurs vacanciers ainsi que des candidats à la députation nationale venus de Kinshasa et d'ailleurs pour postuler en Boujimaï ou dans la province de Lomami.
Beaucoup de gens sont venus pour ici, nous sommes pendant la période des vacances des élèves.
Signalons que certains voyageurs souhaitent que les compagnies d'aviation multiplient le nombre de routings sur Boujimaï pour faciliter les déplacements de voyageurs. Esther Ndalafina, Boujimaï, Radio Okapi.
La synergie des syndicats des enseignants de la RDC demande au gouvernement de payer les nouveaux barèmes salariaux pour une rentrée scolaire apaisée. Cette routière a fait cette requête samedi dernier à Kinshasa lors de l'Assemblée générale d'évaluation de l'année scolaire 2022-2023. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC dit regretter que le gouvernement n'ait pas honoré ses engagements tout au long de l'année dernière. D'autres précisions avec vous, Blaise Nongala Mayanda.
Ces enseignants sont d'avis que le nouveau barème salarial leur permettrait de faire face aux coûts actuels de la vie. Ils exigent également la suspension de la ponction de la somme de 10 000 francs congolais défalqués arbitrairement de leur salaire et de restituer les manques à gagner enregistrés depuis avril dernier. Ces professionnels de la CRE recommandent aussi au gouvernement de consolider la gratuité de l'enseignement de base avec la construction de nouvelles écoles. Ils préconisent en outre le paiement de tous les enseignants du primaire d'un salaire et d'une prime uniformisée comme indique leur portée parole. Jean Bosco Pouna.
Pour une rentrée scolaire apaisée, les enseignants demandent au gouvernement la révision à la hausse des frais de fonctionnement aux écoles et bureaux gestionnaires, de réhabiliter le secrétariat général à l'EPST et l'inspection générale de l'EPST dans leur mission régalienne au lieu qu'ils soient caporalisés par les cabinets politiques.
La synergie des syndicats des enseignants de la RDC rappelle par ailleurs au gouvernement que c'est le respect de ses engagements permettra une rentrée scolaire 2023-2024 apaisée. S'exprimant en marge de la commission paritaire gouvernement banc syndical jeudi en Bola Loge à Kisantu, le ministre de l'EPST Tony Mwaba a exprimé la volonté du gouvernement de s'investir pour une bonne rentrée des classes en septembre prochain.
À Kindu, la population cherche à connaître la vraie raison qui a poussé le gouvernement provincial du Maniema d'arrêter brusquement le fonctionnement d'un écran géant placé au centre-ville par le sénateur Augustin Matatampogno. C'est dans la commune de Mikelenge, à l'espace dit Mapon, pour permettre à la population de se divertir en regardant les programmes tels que des matchs de football, des films et autres programmes télévisés. Ils sont nombreux, les habitants de Kindu, à désapprouver la mesure d'interdiction prise par l'autorité provinciale, à qui ils demandent de revenir sur sa décision. En réaction, Afani Idrissa Mangala, gouverneur intérimaire, met en place des considérations sécuritaires pour justifier sa décision. Florence Kizalunga.
Il y a de cela 3 semaines environ que les personnes de tout âge qui s'est retrouvée devant l'écran géant à la place dite Mapon ne vient plus. La décision du gouverneur intérimaire mettant fin au fonctionnement de ce dispositif est très mal accueillie par les concernés. La plupart de ceux qui se rendent presque chaque soir passer du temps à cet endroit expriment leur incompréhension. Témoignage.
Nous, population du Maniema, en particulier les jeunes, nous sommes étonnés par le comportement des gouverneurs de nous arrêter notre écran géant sans motif.
Cet écran géant permet à distraire la jeunesse, à suivre les informations.
Ici, au niveau de l'espace Mapon, nous n'avons jamais observé aucun incident pour nous arrêter notre écran brusquement comme ça.
Contacté, le gouverneur intérimaire motive sa décision. Afan Idrissa.
La motivation est d'ordre sécuritaire. Nous sommes résolus que, avec l'écran géant, la population quitte cet endroit public dans des heures tardives. Donc, il y avait confusion entre les gens qui créaient l'insécurité et les paisibles citoyens.
Outre l'écran géant placé par Augustin Matatampogno, un autre qui avait été installé par Salomon Itzkalonda Dela en face de la tribune a également été frappé par la mesure de l'autorité provinciale du Maniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
En actualité internationale au Mali, Human Rights Watch dénonce de nouvelles atrocités commises par des soldats et des hommes présumés de Wagner. 10 jours après avoir publié un rapport sur les violences commises par les groupes djihadistes au Mali, l'Organisation de défense des droits humains documente cette fois de nouveaux cas d'exactions commises par l'armée malienne et par ses supplétifs russes. Human Rights Watch interpelle l'Union africaine et la CEDEAO. Législative en Espagne, la droite conservatrice en tête, mais le Parti socialiste résiste. Selon les médias espagnols, le Parti populaire remporte les élections législatives d'hier dimanche. Le Parti socialiste ouvrier espagnol arrive en deuxième position au coude à coude avec les conservateurs. Le parti d'extrême droite Vox est troisième de ce scrutin. Aucune majorité claire ne se dégage pour le moment.
L'invité.
5 jours nous séparent du démarrage officiel à Kinshasa de 9e Jeux de la Francophonie. Le président du comité national de ces Jeux parle avec assurance d'une grande fête. Isidore Kouandja est l'invité de ce journal. Il fait le point des préparatifs dans cet entretien accordé à Vincent Kongolo et Fulbert Balolagué. Suivez.
Directeur, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à jour J, moins 5 de début des 9e Jeux de la Francophonie. Aujourd'hui, à 5 jours, où en sommes-nous avec les préparatifs?
Aujourd'hui, à 5 jours, nos préparatifs sont complètement terminés. Maintenant, nous sommes à l'étape d'accueillir les athlètes. Aujourd'hui, je serai à l'aéroport pour accueillir les athlètes. Ils arrivent demain, après-demain, et la fête commence déjà.
Pour le moment, quels sont ces pays qui sont déjà arrivés d'abord?
Plusieurs pays sont déjà arrivés. Je peux compter une quinzaine de pays qui sont déjà arrivés parce qu'il y en a qui sont arrivés un peu plus tôt pour s'entraîner sur place, comme les équipes notamment des pays africains qui sont venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazza, du Congo-Kinshasa également, qui sont à l'université et qui sont en préparation à ce moment-ci. Et nous, nous sommes maintenant à l'étape d'accueillir les différents athlètes qui arrivent. La fête a déjà commencé, comme vous le savez, la ville est bouillonne. Tout le monde attend impatiemment cette cérémonie d'ouverture qui sera symbolique, qui va marquer l'histoire de la francophonie. Nous attendons cette cérémonie d'ouverture à bras ouverts.
Justement, parlant de cette cérémonie d'ouverture, comment est-ce que le public va accéder au stade? Est-ce que c'est gratuit ou bien les gens doivent payer des tickets?
La cérémonie sera gratuite. Toutefois, pour y accéder, il faut avoir un bracelet. Nous allons vous indiquer les points de chute où vous devez aller vous procurer ces bracelets. Même si c'est gratuit, nous devons savoir combien de personnes qui rentrent, quelle est la catégorie des personnes qui rentrent. C'est ainsi que nous allons procéder par la distribution des billets symboliques avec des bracelets. Et ce sont les personnes qui vont porter les bracelets qui pourront accéder au stade des martyrs pour assister en direct à cette cérémonie d'ouverture.
Pour les journalistes, est-ce que les accréditations sont-ils prêtes?
Les accréditations sont en train d'être distribuées en ce moment-ci. Je pense que vous devez vous référer auprès de la commission des communications qui a listé toutes les personnes, tous les journalistes qui seront accrédités, qui vont avoir leur badge. Donc c'est auprès de la commission que vous allez vous procurer votre badge pour pouvoir accéder à l'intérieur du stade des martyrs, mais également pour couvrir tous les événements qui vont se tenir, que ce soit au stade des martyrs, que ce soit au stade Tata Raphaël, que ce soit au musée, au palais du peuple et dans tous les sites des jeux.
Alors, on ne peut pas terminer cette interview sans faire le point sur les infrastructures. Est-ce que tout est fini?
Moi, je ne parle plus des infrastructures parce qu'aujourd'hui, tout est fini. À 5 jours, je ne peux plus parler des infrastructures. Tout est fini, tout est fin prêt. Hier, nous avons fait une descente avec le président de la République qui a réceptionné la clé de façon symbolique pour attester que les travaux sont complètement finis et que maintenant, nous attendons l'accueil et les activités.
Nous avons vu hier, par exemple, qu'il y avait déjà les travaux de nettoyage au stade de martyrs et la préparation de la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rassurer tous ceux qui doutent que c'est la propriété qui est déjà en train d'être faite sur les sites de jeux de la francophonie?
Il n'y a plus de doute possible. Moi, je vous ai dit dès le premier jour quand je suis arrivé ici, j'écris et jusqu'à aujourd'hui, je crois. Et aujourd'hui, tout le monde qui avait des doutes croit que les jeux auront bel et bien lié et ça sera une grande fête. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment la propreté, les aménagements extérieurs. Mais à l'intérieur, tout est fin prêt, tout est prêt pour accueillir le 9e jeu de la francophonie ici à Kinshasa.
Le jeu de la francophonie, c'est une grande fête pour non seulement Kinshasa, mais pour toute la RDC. Vous pouvez dire aux Congolais qui sont à l'intérieur du pays, comment est-ce qu'ils peuvent suivre d'abord la grande cérémonie d'ouverture, mais aussi tous les jeux en intégralité?
La cérémonie d'ouverture sera retransmise en direct que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays. On va lancer un signal à l'international qui serait relayé par TV5, par plusieurs autres chaînes internationales, mais également la RTNC qui va rediffuser sur le territoire national, mais aussi toutes les autres chaînes qui vont prendre les relais pour diffuser parce que c'est un événement national et international. Nous allons donner l'opportunité à nos compatriotes de l'intérieur du pays de suivre soit la radio, soit la télévision. Nous avons signé des contrats avec plusieurs chaînes, dont notamment la radio Okapi, qui va diffuser et qui diffuse l'étendue du territoire national et qui va nous permettre à ce que nos compatriotes qui sont à l'intérieur du pays puissent également suivre l'événement en direct, soit par la radio, soit par la télévision, soit par les réseaux sociaux, soit par tous les moyens de communication actuels.
Messieurs les directeurs, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie et je remercie Radio Okapi pour nous avoir accompagnés durant tout le processus jusqu'au 28, la date fatidique, et jusqu'à la fin des jeux.
Le président du Comité national des jeux de la francophonie, Isidore Kouandja, était notre invité. Fin de ce journal qui a été coordonné par Pelé Kipela Mondo. Alain Goy a assuré la technique. Au nom, à leur nom, je vous dis merci de l'avoir écouté.